Jeanne Vallet, c'est Stéphane Pire qui reçoit Thierry Chantrenne. C'est un hasard. Le jour de la diffusion de ce podcast, hein, c'est le jour où on découvre une exoplanète habitable. Et donc aujourd'hui, Thierry Chantrenne va nous parler de Liège et de son application dans la conquête spatiale.
Alors bonjour, bonjour Thierry Chantrenne.
Bonjour Thierry.
Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours ?
Mon parcours en quelques mots, donc je suis un ingénieur sorti de Liège il y a déjà quelques années.
Montefiore ?
Non, c'était la mécanique, c'était l'aérospatiale.
D'accord.
Pourquoi l'aéro ? Parce que j'ai toujours été... Enfin, je suis arrivé au métier d'ingénieur par la conquête spatiale, je pense comme beaucoup de personnes de ma génération. Et donc après ça, j'ai eu la grande chance de pouvoir faire une très très large partie de ma carrière dans le domaine aérospatial, d'abord dans le domaine plutôt aéronautique. Mm-hmm. J'ai passé 16 ans à Tech-Spec Aéro, qui est assez connu dans la région, et puis je suis passé de l'autre côté de la barrière en reprenant une division qui avait été vendue à Pratt & Whitney. Et après ça, j'ai eu la grande chance et le privilège de pouvoir prendre la direction du Centre Spatial de Liège et de ce fait, vraiment, de revenir tout à fait à ce qui m'avait conduit à ce métier.
Ok, et donc que je te resitue Vegetal Valley dans le radar. Hein. Mm-hmm. Donc notre mission, nous, c'est la désintermédiation d'abord, hein, c'est raccourcir le circuit entre les fabricants, les manufactureurs et même les maraîchers locaux et le client final. Donc faire en sorte que les commodités viennent plutôt du local plutôt que de l'import. Notre deuxième mission est d'offrir un outil de communication et de valorisation en donnant une tribune à des acteurs économiques, publics et privés, tels que le CSL et toi-même. Et donc, on a toujours la même question, et cette question est un petit peu négative, mais on termine toujours par du positif. C'est quels sont, selon toi, les enjeux à Liège ? Qu'est-ce qu'on doit attaquer en premier pour se relever ?
Oui, la question que vous m'avez posée sur papier, c'était quel est le plus gros problème de la région ? Alors, moi, c'est marrant, parce que quand j'ai vu cette question-là, je me suis dit, il faut...
Je me fais engueuler, hein, en général, quand je dis le problème, il n'y a pas de problème à la région. Au gré, on ne peut pas dire qu'il y a des problèmes, on dit qu'il y a des potentiels de propulsion.
J'allais dire ça, en fait. Il y a un auteur que je n'ai pas retrouvé, un auteur anonyme, qui a dit « Les problèmes sont le déguisement des opportunités ». Donc, je pense aussi qu'à partir du moment où... pour un ingénieur, un problème, ça existe. C'est-à-dire que c'est un problème qui est posé, et puis quand il est posé, il faut le résoudre.
Ouais.
Donc, c'est dans ce sens-là qu'on regarde les problèmes, toujours en termes de solutions et pas en termes négatifs. Donc, pour ça, je trouve qu'effectivement, de toute façon, ça sert à rien de se mettre la tête dans le sable aussi. Il est clair que la région a connu un tournant avec... on sait bien qu'au début du siècle et jusqu'à l'entre-deux-guerres, la région a extrêmement bien vécu parce qu'elle avait des matières premières, parce qu'elle avait le charbon, parce qu'il y avait des minerais. Bon, mais à la fin, ils apportaient le minerai. Mais c'est parti sur des logiques de matières premières. On avait une position géopolitique, un environnement géopolitique qui était complètement différent. Les pays européens étaient au centre d'empires coloniaux. Et tout ça créait effectivement une richesse et une façon de vivre. C'est progressivement, ces modèles se sont arrêtés. On a vu l'indépendance des colonies. On a vu le charbon qui s'est tari, ou en tout cas qui est devenu tellement cher à exploiter que ça n'avait plus aucun intérêt. Et donc, en fait, on a un vrai problème de matière première, j'aurais tendance à dire. Mm-hmm. Je pense qu'on a pris un peu de temps pour prendre la mesure et pour faire le virage, mais aujourd'hui, il est pris. Et moi, j'aime bien réfléchir en termes de matière première. Je me dis, ce qu'il y a, c'est que simplement la matière première a changé. Et si je transforme le problème en opportunité, je dis tout ce qui a fait le talent de Liège à l'époque, qui a permis à Liège d'être riche par l'exploitation des matières premières qu'elle avait à ce moment-là, tout ça est encore là. Les gens il y a un très très haut niveau d'éducation, il y a un très très haut niveau de formation, de compétences, de savoir-faire qui est reconnu. Il y a déjà vraiment des valeurs qui sont reconnues, qui sont toujours présentes, qui ont une image de marque qui est toujours extrêmement présente et qui sont associées à des savoir-faire qui sont présents. Il faut juste les adapter aux nouvelles matières premières. Et moi, quand je regarde ces matières premières, je me dis, c'est quoi la première qui sort à peu près de toutes les discussions et que moi, j'ai aussi défendu, c'est la matière grise déjà.
D'accord.
Cette créativité, elle est d'autant plus pertinente que tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui qu'on est rentré dans une ère de la connaissance. La connaissance a de la valeur. Donc c'est une vraie matière première, cette innovation, cette créativité.
La connaissance ou la data ou...
Ah non, je parlais d'abord de la connaissance. D'accord. Je pense qu'il y a déjà quelque chose à jouer. Maintenant, effectivement, quand on regarde, je me réfléchis, je me dis, allez, il n'y a pas que ça en réalité, parce qu'aujourd'hui, on voit tout un tissu d'entreprises qui sont en train de naître ou qui ont déjà quelques années derrière elles, qui sont en train de grandir. Le CSL est au milieu du Science Park à Liège. Mm-hmm. On voit bien qu'autour de nous, on a des pépites, et des pépites maintenant qui sont, je pense, VS, ça doit être, bon, ils sont pas loin d'un millier, je pense.
Ça, ouais.
Donc ce sont vraiment
ils
des...
c'est un quasi-monopole sur ce type de science-là, en plus. Ouais.
Tout à fait. Et donc, quand je me dis, bah, eux, ils ont pas, c'est pas sur la connaissance qu'ils ont grandi, ils ont travaillé sur d'autres matières premières. Je pense que le numérique est une matière première.
C'est ça.
J'en avais listé quelques autres, je pense que... Qu'est-ce que j'avais dit?
Et
oui, là, je dis, la connaissance, mais non, une qui me plaît bien aussi, et c'est tout à fait en ligne avec la problématique des circuits courts et des circuits de l'économie circulaire, c'est les déchets.
C'est ça, ouais.
La pollution, c'est une matière première aujourd'hui. Quand on la pense en tant que matière première, ben, y a plein d'idées qui viennent et il y a plein de sociétés qui sont en train de grandir en faisant des choses magnifiques.
Ok. Je vais quand même te cuisiner sur ta partie CSL, hein, la partie sorte spatiale. Hein. Mm-hmm. Bon, tu citais les colonies, etc., par rapport à la Belgique et l'Europe. Donc, un grand moyen d'industrialisation et de prospérité, ça a quand même été l'exploration. Par rapport à l'exploration spatiale, parce qu'il n'y a plus grand-chose à explorer ici, est-ce que Liège a un rôle à jouer, ou est-ce que y a moyen de se placer de manière compétitive, ou est-ce qu'on manque vraiment trop soit de ressources ou de progrès technologique?
Il y a deux questions, il y a deux points.
Ouais.
Sur l'exploration, d'abord, évidemment que je pense que l'homme est naturellement un explorateur. Et c'est une des raisons aussi pour laquelle je défends le spatial. Mais quand on dit qu'il n'y a plus que le spatial, ça, je ne suis pas d'accord. Il y a des tas de choses encore qui restent à explorer. Mm-hmm. Je pense l'infiniment petit. Toute la partie, et on le voit d'ailleurs émerger, je pense que ça c'est une opportunité qui a été très très bien saisie à Liège aussi, c'est toute l'utilisation des bactéries, des micro-organismes pour faire toute une série de choses auxquelles on n'avait absolument pas pensé initialement, pourrait même résoudre nos problèmes d'oxygène d'ailleurs. Donc ça, je pense qu'en termes d'exploration, il y en a toujours. Maintenant, le spatial est effectivement, en termes d'exploration, projeter, sortir, cette expansion qui est vraiment, à mon avis, tout à fait au fond de la nature humaine. C'est sûr que le spatial le représente très bien, et je pense que c'est pour ça qu'il y a toujours une grande fascination pour le spatial. Donc voilà, de ce point de vue-là, ben, je pense que c'est très très important. Est-ce que la Belgique peut jouer un rôle? Ben, bien sûr, non seulement elle peut jouer un rôle, mais elle le joue. La Belgique aujourd'hui est le 5e contributeur de l'Agence spatiale européenne en contribution nette. C'est énorme. Je veux dire, on n'est pas le 5e plus grand pays d'Europe. Donc elle est reconnue comme étant un moteur, on est reconnu comme étant des acteurs du spatial qui sont extrêmement importants, parce que ben, aussi parfois, quand il y a des grandes disputes entre les grands pays habituels, la France ou l'Allemagne, la Belgique sait jouer les médiateurs, sait apporter des solutions, et plus que ça, on est même arrivé à amener des lignes technologiques propres, quoi. Il y a des satellites qui s'appellent Proba, qui est un projet à la base totalement belge, qui a été fait par les Belges dans le cadre de l'ESA, mais l'ESA n'en voulait pas trop, c'était quand même un petit bricolo. Puis ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui, la ligne Proba, c'est la ligne technologique de l'Agence spatiale européenne. Donc les Belges ont un vrai rôle à jouer, et à Liège, on a un rôle particulièrement important à jouer, parce que c'est à Liège qu'il y a la plus grande concentration aujourd'hui des métiers, des personnels qui s'occupent du spatial en Belgique.
Ok. Et alors, c'est pas frustrant, je dirais, à long terme, d'être en face d'un outil qui pourrait très bien nous rapporter vraiment beaucoup de prospérité, d'argent dans le futur, et qu'il faille maintenant mendier pour du financement, alors qu'il y a un retour sur investissement espéré dans le spatial, mais qui est quand même à long terme. Tu es quand même plus loin que dans le pharmaceutique, je suppose, dans l'espérance de retour sur investissement quand tu lances un projet spatial.
Ça, c'est pas du tout le même modèle économique.
C'est ça, oui. Donc, mais c'est un long modèle. Ouais.
Ouais, je dirais non, on n'a pas à mendier. On gagne l'argent sur ce qu'on est capable de faire.
C'est ça.
Et c'est reconnu.
Et c'est valorisé.
C'est absolument valorisé.
D'accord.
Moi, je pense que le plus gros problème à Liège, c'est pas ça. Le plus gros problème, c'est à un moment donné de ne pas se focaliser sur ce qui va mal, mais de montrer ce qui va bien.
C'est ça.
C'est pas pour ça qu'il faut pas faire attention. Je pense qu'il est important de d'accompagner les transformations. Mais on oublie, en faisant ça, on oublie de montrer qu'il y a déjà des choses qui marchent super bien, qui permettraient au grand public aussi. Bon, on l'a vu, on a fait une journée porte ouverte il y a un mois d'ici pour fêter les 50 ans du centre. On a eu 1200 personnes. Mm-hmm. C'est parce qu'on a limité, sinon c'était encore plus. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai intérêt. Il y a un vrai... Les gens ont envie de voir ce qui se passe. Et une fois que vous avez pu démontrer que vous intervenez positivement sur la vie économique, mais il n'y a aucun souci, je veux dire, les moyens, ils sont là. Liège n'est pas pauvre. Parfois, on veut le faire croire, mais c'est pas vrai. Mais à partir du moment où il y a des projets, ils sont soutenus. Il faut pouvoir les défendre. Ça veut dire que ça ne tombe pas tout seul. Ça, c'est normal. Moi, je trouve personnellement que c'est normal. Il faut se battre un peu. Mais si vous avez quelque chose à apporter, qui a de la valeur, qui soutient l'économie, qui se développe, vous avez des bonnes idées, il y a des moyens et il y a des gens qui sont là pour vous aider. Mm-hmm. Donc, c'est très bien.
Par rapport à ces projets, hein, tous ces projets-là, tu peux nous parler de quelques-uns de tes projets, voire tous hein, si tu... Donc il n'y a pas de format heure hein, ici, donc tu es censé écouter ça dans les bouchons, dans le carré, voilà. Donc ça peut durer 2 heures.
Bon non, mais il y a des projets, je ne vais pas parler spécifiquement des projets du CSL, les projets du CSL s'inscrivent en général dans les missions européennes, mm-hmm. Donc là on est vraiment dans des logiques, je dirais, de décision qui se passent vraiment à niveau européen. Maintenant, c'est clair que, je dirais à titre personnel, j'aime bien la logique de l'entreprise, j'aime bien la logique d'être un entrepreneur. Je pense qu'il faut des gens pour porter, pour lancer des projets. J'ai eu l'occasion de porter un jour un projet de spin-out dans une entreprise. C'était à la fois très intéressant et très frustrant. Ça a été très intéressant parce qu'il y avait des acteurs pour aider. À partir du moment où il y avait une vraie volonté, il y avait un support de la direction générale, on avait les moyens, on avait la capacité de monter un véritable dossier. C'est frustrant parce qu'au bout du compte, le projet n'a pas abouti. Et les raisons pour lesquelles il n'a pas abouti, c'est pas vraiment des raisons purement économiques, quand vous vous rentrez dans un certain microcosme, vous dérangez un certain nombre de personnes, et vous apercevez qu'il y a beaucoup de peur. Il y a beaucoup de peur de beaucoup de personnes de perdre le contrôle ou de perdre exactement peut-être une partie de leur pouvoir. Je ne sais pas, c'est difficile à dire. Mais c'est cette difficulté à un moment donné de fédérer l'ensemble des forces sur un seul projet que je trouve le plus difficile dans le fait de porter un projet.
C'est ça.
Ça n'empêche pas qu'on continue. Et alors, il y a d'autres difficultés, mais on a... on a toujours en tête de créer des tas de choses. Maintenant, je veux dire, pour le moment, l'activité professionnelle prend aussi beaucoup le plus de temps, donc ce n'est pas facile. Mais mon épouse est en train d'essayer de lancer une activité. Donc ce qu'on voit, on voit toujours de la même façon. Quoi. C'est toujours le même. Il y a des tas d'outils. Elle bénéficie d'un certain nombre d'outils de très très grande valeur pour apprendre, pour se former. Les conseils sont là. Attaquer le marché, je dirais, au-delà de la difficulté à un moment de trouver des personnes qui ne sont pas avec vous parce qu'elles se voient attaquées sur leur terrain. La deuxième difficulté que je vois, c'est de faire la transformation de l'idée en un vrai produit.
C'est ça.
La partie industrialisation est en général très très difficile. D'ailleurs, dans l'industrie, on appelle ça la vallée de la mort.
C'est ça, la vallée de la mort, oui, tout à fait.
Donc c'est clair. Et là, par contre, je trouve qu'il y a pas beaucoup de choses qui sont en place véritablement. On avait identifié lors d'une séance de réflexion qu'il y avait un besoin, et ça avait été exprimé autant par les industriels que par les académiques, qu'il y avait un besoin peut-être de créer une espèce de master en industrialisation où on ferait intervenir à la fois des profs et à la fois des industriels dans un master complémentaire. Mmh. L'idée est dans l'air, elle a du mal à se concrétiser pour des tas de raisons. Mais ce besoin, il existe. Il n'est pas facile non plus de le mettre en master parce que ça fait, il y a tellement d'expérience qui doit être mis là-dedans. Chaque produit a des façons d'industrialiser extrêmement différentes. Ce n'est pas évident, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas évident qu'il ne faut pas le faire.
Tout à fait. Et donc, pour moi, hein, c'est un problème auquel je m'intéresse beaucoup. C'est pas justement traditionnellement un souci liégeois d'arriver à créer le marché autour de sa super belle idée, parce que quand on regarde finalement les grands acteurs de la région, ce sont finalement des Américains, John Cockerill et Browning, et on a du mal un peu à ne pas être trop humble par rapport à nos inventions et à les pousser sur un marché.
Oui, il y a peut-être ça. C'est effectivement peut-être un petit manque de confiance, mais...
On a beaucoup d'ingénieurs et peu de commerciaux.
Oui, c'est ça. Mais vraiment, ça, le commercial est un vrai problème. Mm. Alors, est-ce que c'est liégeois ? Ça, j'en sais rien. Je suis pas ouais. sûr, mais...
Ça
mais...
peut être ailleurs, mais ce qui nous intéresse ici...
mais la remarque est juste, c'est ça qui manque. Et souvent... Là, par contre, il y a une différence très très forte avec les anglo-saxons. Mm-hmm. Les Américains, ils ont une bonne idée, ils vont vous la vendre.
Oui,
ils
avant qu'elle soit faite.
Les problèmes d'éthique et tout ça, ils sont en contrebalance. L'objectif, c'est d'abord de faire du pognon. Si l'idée est susceptible de faire du pognon, ils vont essayer.
D'accord.
Nous, pas. On va se poser la question, merde, quand même, est-ce qu'on doit... Enfin, non, attends, c'est un peu con, on va pas le faire. Je pense que c'est encore réflexion, je sais plus sur quoi, j'ai le truc... il y avait un machin sur les chiens, je crois. Ils ont réussi... Ah oui, il y a un restaurant pour les chiens.
C'est ça.
Aux États-Unis.
Ouais.
On se dit, ouais, pourquoi ça... Et ça marche du terriblement, les gens viennent amener leurs chiens qui vont... Je crois que c'est un grand magasin à New York qui fait
ça. Comme ça, ouais.
Et on se dit, mais on ferait ça chez nous, ça marcherait pas, quoi. Et donc on n'ose pas, alors que peut-être que ça marcherait,
mais, bah, ça marcherait.
Mais tellement qu'on, je sais pas, on se bride, oui, parce qu'on pense que non, allez, on va pas faire ça, ça c'est quand même trop kitsch.
Je n'ai pas fait toutes ces études pour ça.
Non, c'est même pas ça. Je pense pas que ce soit ça. Je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est vraiment de se dire, allez, non, quoi, ça peut pas fonctionner. Les gens vont pas rentrer là-dedans. Non, le magasin, c'est sur les poupées. Quoi. Il y a un grand magasin à New York qui fait que des poupées. Et si vous montez au premier étage, les petites filles reviennent chaque année pour se faire coiffer leurs poupées. Et il y a un restaurant de poupées. Quoi.
C'est ça. Ouais.
Voilà. Mais ça, on se dit non, on va pas faire ça. Mais aux États-Unis, ça marche. Et ça marche de manière incroyable. Il y a des gens qui viennent de la côte ouest à New York pour venir faire coiffer leurs poupées. Bah, c'est dingue. Ouais. Bon, ouais. On se dit, alors, il y a que les Américains pour faire ça, mais pas en fait.
Bon. Bah, c'est quand même une colonie de chez nous, donc je suppose qu'il y a quand même des traces. Voilà pour le projet. Par rapport aux aides, tu travailles beaucoup avec le gré ?
Oui, on travaille avec le gré. Moi, effectivement, à titre personnel, j'ai un peu pris la casquette au gré de Monsieur Spatial, celui qui peut amener les idées qui sont liées à ce domaine-là, ou l'aéronautique d'une manière générale, on est un peu plus en amont, mais c'est pas le seul endroit où il y a des où il y a des aides. Je pense que les pôles de compétitivité sont quelque chose d'important également.
Mecatech, il y en a un spécifique pour le spatial ou...
Oui, il y a le pôle Skywind qui s'occupe spécifiquement de l'aérospatial. Mais il est évident que pour nous, typiquement au CSL, mais pour beaucoup d'entreprises qui sont actives dans le domaine aéronautique, on a autant de projets dans le pôle Mecatech que dans le pôle Skywind. Je dirais qu'avec Skywind, on va se retrouver plus avec des acteurs purement aéronautiques dans le projet aéronautique, mais dès qu'on est sur nos techniques de base, on va se retrouver en mécanique.
Enfin, c'est ça. Ok. Alors, de quelles aides le CSL aurait besoin, selon toi, en plus des aides habituelles? Est-ce que tu verrais des parcours universitaires pour vos chercheurs, des post-doctorats, des échanges avec d'autres universités comme Caltech ou MIT ou des choses ainsi? Est-ce que tu crois qu'il faut développer quelque chose à ce niveau-là? Parce que un des prérequis maintenant de l'ULG, ne serait-ce que dans son staff, c'est que les gens aient voyagé. Donc ça, est-ce qu'il y a moyen de stimuler cette partie-là, ou c'est plus vraiment de l'aide financière auquel les projets comme les tiens auraient besoin?
Oui, c'est intéressant parce qu'en réalité, on a déjà tout ça, donc j'aurais presque envie de dire, et je le défends au sein de l'université, venez voir ce qu'on fait chez nous, parce que peut-être que vous pourriez en faire d'autres à l'université, ça aurait de l'intérêt.
Donc vous faites déjà des échanges.
Y a des échanges, oui, on a des post-docs qui viennent pour le moment, on a un post-doc brésilien, on a un post-doc algérien, donc ça, c'est des choses qu'on fait assez régulièrement. On n'est pas les seuls. Je veux dire, dans l'échange, les académiques le font très bien. Par contre, ce que je pense que nous faisons, c'est que nous avons un modèle pour l'université qui est un peu différent du modèle habituel. Et je pense que l'université a tout intérêt. Je vois que c'est un peu mon message habituel. On a tendance aujourd'hui à opposer la recherche appliquée à la recherche fondamentale.
C'est ça.
Beaucoup de gens ont en tête que si on met de l'argent dans la recherche appliquée, on va tuer la recherche fondamentale. Je pense que c'est pas vrai du tout. Je pense que les deux domaines sont tout à fait complémentaires, et chez nous, c'est exactement ce qui se passe. On est très fort dans la recherche appliquée. Mais l'argent qui rentre au CSL grâce à la recherche appliquée, il y a une partie de cet argent qui va à l'université et qui rentre dans les caisses des conseils de la recherche. Donc ça veut dire que ce cercle, il est vertueux. Donc j'essaye d'encourager l'université, et peut-être à d'autres endroits, d'identifier que les deux se travaillent. Il y a un vrai circuit qui peut être mis en place, qui peut être démontré, où ce qu'on a vendu vient finalement influencer ce qui viendra un peu avant, un peu plus tôt, un peu plus en amont, et qui nous permettra de créer de nouvelles choses. Parce que je crois très très fort qu'on est absolument, il est indispensable qu'on garde des programmes de recherche extrêmement élaborés, extrêmement pointus. On est dans le domaine de la connaissance, dans le domaine de la créativité, donc il faut qu'on cherche.
C'est ça.
Sinon, ça ne s'applique pas. Mm-hmm. Et pour financer la recherche, il y a déjà un certain nombre d'outils. Mm-hmm. Ces outils, on le voit bien, et c'est logique, parce qu'en général, comme le plan Marshall a pour objectif et pour ambition de mettre ensemble les industriels avec l'université, les académiques et les grandes écoles et les centres de recherche. Donc forcément, on est relativement proche de l'industrie. Forcément, on est dans l'appliqué. Et ça, on voit bien qu'au sein de certains nombres de services, des personnes se disent « Ouais, mais du coup, j'ai pas les moyens. » Ben, je dis non, je dis qu'il y a moyen. Je dis que c'est tout à fait possible et qu'il faut pas les opposer et qu'il faut développer ces modèles. Et là, j'aurais tendance à dire, le CSL me paraît être un peu en pointe, c'est certainement un exemple. Mais donc voilà, je ne peux qu'encourager et demander qu'on maintienne des moyens pour la recherche, que ce soit la recherche fondamentale, la recherche appliquée en général. C'est plus facile à partir du moment où vous avez vraiment, vous apportez quelque chose d'industriel, vous allez trouver des financements, c'est relativement normal. Et des moyens existent. Je ne suis pas sûr qu'il faille en rajouter plus que ce qu'il y a là aujourd'hui, il faut bien les utiliser.
Ok. Alors on termine toujours par la question existentielle. Celle qu'on se pose quand on attend ses bagages à l'aéroport ou un truc comme ça. À refaire, qu'est-ce que tu ferais autrement ? T'as fait un peu un parcours hybride, t'as commencé dans le privé, t'as terminé un peu dans la recherche et le semi-public. Est-ce que tu ferais tout pareil ? Ou en tout cas, quel serait le conseil que tu donnerais à un ingénieur qui sort aujourd'hui ?
Ah, en termes de parcours, le fait de pouvoir quelque part se former et travailler dans des grandes entreprises au démarrage, je pense que c'est une bonne chose. Parce que vous apprenez des méthodes, vous apprenez une façon de faire, vous rentrez dans une culture qui est très structurée. Donc elle a la capacité d'abord de vous mettre... Bon, il faut voir les différentes sociétés, mais moi j'ai eu la chance à TechSpace.io d'avoir tout de suite des projets relativement importants en charge. Donc c'est très gratifiant, c'est très apprenant. Vous êtes confronté dans ces groupes à directement la vision corporate, l'ensemble des procédures, des processus qui sont très très structurés. Ces sociétés se structurent très fort et donc elles vous amènent une réflexion qui est très forte sur le management, sur l'organisation des entreprises. Et donc je pense que c'est très très apprenant et je remarque que des personnes qui à la fin les cadres, les quinquas qui sortent de ces structures-là pour rentrer dans des plus petites structures, voire créer la leur, sont beaucoup plus efficaces. D'abord, ils ont l'expérience, ils ont derrière eux une connaissance de ce que c'est une entreprise, ils savent ce que c'est des clients, ils savent tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour faire une entreprise. Quand vous êtes jeune, vous n'en savez rien, vous avez une idée, vous dites c'est la meilleure idée du monde, fatalement, c'est normal, vous avez raison de penser ça, mais on ne se rend pas compte de tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour avoir un marché. Il faut mettre des commerciaux, il faut faire ses factures, ça demande d'une infrastructure qu'on n'a absolument pas prêt à faire, qu'on n'imagine pas qu'il faut faire, qui est très très consommateur.
Ouais.
Et donc je pense que des personnes qui ont une expérience, qui ont vu ça dans une grande entreprise, qui se sont confrontées aux différents aspects, sont mieux armées pour faire ça. Et quand ils en sortent, en général, c'est qu'ils ont des valeurs, ils veulent développer quelque chose dans la région. Et donc je pense que c'est très très important et je trouve que c'est un parcours qui est intéressant. Bon, maintenant, je crois que celui qui est capable, dès le départ, de faire son propre produit, qui a envie d'être indépendant, qui est capable de le faire, c'est une merveilleuse aventure. Donc forcément, ouais. C'est extrêmement gratifiant quand on l'a fait. Ça.
Ok, bah, merci Thierry.
Mais merci Stéphane.
Une bonne journée.
Une bonne journée également.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis et à très bientôt.